Ma recherche est née très simplement d'un constat, simple, presque simpliste, que j'ai pu faire à propos d'une société savante, la société d'acclimatation, qui est née en 1854 et qui, en 1960, a changé son nom. Elle est devenue la Société nationale de protection de la nature. Bon, donc très clairement, on s'entend, il y a eu une modification importante, parce qu'une modification de titre signifie évidemment une modification d'objet et des préoccupations de ces savants. Ce changement de regard, on le voit également à travers les propos de ces savants, et j'en ai choisi deux citations pour commencer. La première, c'est celle d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, datée de 1854, hein, donc vraiment aux origines de la société d'acclimatation, qui est le premier président de cette société, et à l'époque aussi directeur du Muséum d'histoire naturelle. Donc il dit tout simplement: c'est au règne animal que nous voulons demander à son tour des ressources, des forces, des richesses ignorées, afin que l'homme soit maître enfin de la nature entière. Les choses sont claires, la nature n'a d'intérêt en ce qu'elle est utile et utilisée par l'homme, et c'est l'homme qui est au cœur des préoccupations. 100 ans plus tard, on a un autre éminent savant, Roger Heim, qui est à l'époque directeur du Muséum d'histoire naturelle également, qui est administrateur de la société d'acclimatation, qui s'appellera très bientôt la Société nationale de protection de la nature, et il dit dans un livre qui s'appelle « Destruction et protection de la nature », publié en 1952, je cite: « Le texte du présent livre eut pour point de départ de graves inquiétudes que font naître ça et là dans le monde les destructions causées par l'homme à la vie terrestre et aux équilibres naturels, depuis son avènement, certes, mais surtout depuis peu, depuis qu'il se croit promu le maître de la nature. » Bon, on a réellement, on voit bien, il prend le contre-pied du fondateur, d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Ici, ce n'est plus l'homme qui est au cœur de la nature, mais c'est l'homme, au contraire, qui perturbe cette nature par son appétit, par sa volonté de dominer. Donc, ce changement de représentation et ces deux dates, évidemment, masquent un cheminement qui se fait beaucoup plus progressivement. On peut donc poser un certain nombre de jalons. Premier jalon, effectivement, ce sont, dans l'entre-deux-guerres, la création d'un certain nombre de réserves naturelles, les premières en France, 1927 la Camargue, 1935 le Néouviel dans les Pyrénées, 1936 la réserve du Lausannier dans les Alpes. On voit également la société d'acclimatation qui organise les deux premiers congrès internationaux de protection de la nature, en 1923 et en 1931, à Paris. En 1933, elle crée en son sein une section dédiée à la protection de la nature. Et puis, dernier jalon, qui est le premier par ordre chronologique, j'ai procédé à rebours, 1912, on voit la fondation de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est une sous-section de la société d'acclimatation, et en même temps, à la même année, la création de la réserve ornithologique des Sept Îles. Voilà. Donc on a des réalisations qui prennent corps à partir du début du XXe siècle. Bien évidemment, ces réalisations traduisent une évolution des représentations qui existent auparavant et qui prend corps donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme je vais vous le montrer ici, à travers la comparaison de deux médailles de cette société d'acclimatation. Donc vous avez, je vais me lever, ce sera plus simple, en haut ici, la médaille de la société d'acclimatation, donc des origines, 1856. Vous avez au centre un personnage féminin qui personnifie la société d'acclimatation, qui appuie son bras gauche sur les animaux domestiqués et qui tend la main droite aux animaux acclimatés. On a une véritable symétrie axiale autour de cette femme. Le bœuf fait face au yak, la poule au hoco, le mouton à l'alpaca et le cheval à l'hélium. Clairement, on a l'homme qui est au cœur d'une nature qui est utilisée, qui va être instrumentalisée pour ses besoins. La nature sauvage ici est absente. 60 ans plus tard, on a la médaille de la LPO, 1914. La LPO est à cette époque-là clairement une sous-section de la société d'acclimatation. Donc on a deux médailles de la même société savante. Là, le motif est radicalement différent. On a un oiseau, probablement un merle, dans son nid, au milieu d'un entrelac de branchages. L'homme est absent, c'est la nature sauvage qui est au centre. D'accord ? Donc on a, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, une véritable mutation dans la représentation d'un certain nombre de ces savants. Et donc, le point de départ de cette société d'acclimatation, c'est bien un projet scientifique et économique qui va être centré sur l'agriculture et qui va petit à petit se transformer jusqu'à déboucher sur le souci de la protection de la nature. J'ai donc mené un travail de thèse pour, à travers une monographie, monographie d'une société savante, pour identifier, donc explorer les origines du courant naturaliste de protection. J'ai cherché à mettre en évidence ces origines, à les caractériser. J'ai cherché à comprendre comment et pourquoi c'est dans cette société savante, dans ce milieu naturaliste, que les idées de protection de la nature vont émerger et s'affirmer. Voilà, j'ai mis en scène dans mon travail, j'ai cherché à décrire évidemment le mouvement des idées, je vais commencer à vous le décrire, mais en le reliant toujours à une certaine matérialité, c'est-à-dire en essayant de voir en quoi ces idées vont se traduire concrètement sur le terrain par des actions, par des réalisations. On passe des idées aux faits, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Pour cela, j'ai mené une triple recherche, qui est allée piocher dans une triple historiographie, parce qu'effectivement, mon sujet de thèse, vous l'avez compris, c'est l'histoire de la protection de la nature. C'est ce que j'ai essayé d'étudier, mais je l'ai étudié à partir d'une société savante, et donc il m'a fallu mener l'histoire de cette société savante, comprendre son fonctionnement, voir en quoi elle était exceptionnelle ou au contraire banale. Il m'a fallu étudier les crises, la sociologie, la répartition géographique des membres, de façon à bien comprendre dans quel milieu va naître ou vont se développer ces idées de protection. D'accord ? Mais il s'agit d'abord d'une société qui s'est intéressée à l'acclimatation. Donc il a fallu également explorer une dimension d'histoire des sciences, qu'est-ce que l'acclimatation, qu'est-ce qu'elle a donné, notamment en lien avec les colonies, sur quoi elles se fondent et comment elles se traduisent. Voilà, donc trois historiographies, trois recherches qui vont déterminer, c'est le plan de ma thèse, c'est celui que je vais suivre aussi cet après-midi, trois périodes chronologiques, trois phases. Alors, il ne faut pas prendre ces phases comme étant des césures extrêmement précises. Là, je décris un mouvement qui est plutôt très lent d'évolution, avec des allers-retours d'ailleurs. Mais néanmoins, j'ai identifié trois moments. Le premier moment, qui va jusqu'aux années 1880, c'est les 30 premières années, finalement, de la société d'acclimatation, c'est son âge d'or. Le moment où elle rayonne, où elle est puissante, où elle a le soutien du pouvoir impérial, le moment où l'idée d'acclimatation est une idée qui est porteuse, clairement, c'est un moment où cette société d'acclimatation va faire ses plus grandes réalisations. D'accord ? Pourtant, dès cette époque-là, quelques idées de protection de la nature existent déjà, mais elles sont cachées. Deuxième moment de seconde phase, à partir des années 1880-1890 jusqu'au début du XXe siècle, on a une phase de crise pour la société d'acclimatation. Je la décrirai rapidement tout à l'heure, mais clairement, l'acclimatation n'est plus du tout en vogue, elle n'a plus du tout, rencontre plus de succès, et donc la société, elle, va rentrer dans une crise, et elle va devoir se redéfinir, se réorienter, et la protection de la nature va être un élément important de cette réorientation, début du XXe siècle. La dernière partie, donc, qui nous amène des années 1910 jusqu'aux années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au moment où la société d'acclimatation change de nom, on va voir la protection de la nature s'affirmer et se réaliser concrètement par les savants. D'accord ? Donc voilà, trois moments que j'ai identifiés, et je le compléterai pour étirer la perspective jusqu'à nos jours par mes études actuelles sur le castor d'Europe. Et on ira jusqu'au mois dernier, avec un ensemble d'exemples. Donc, première phase de mon étude, au milieu du XIXe siècle, pour les naturalistes, l'important, c'était de se soucier de la part utile de la nature. Là, il y a effectivement une citation qui est importante, je ne l'ai pas notée, donc je me retourne pour la lire, voilà, de Léon Turel. 1861, l'homme a le droit d'approprier à son usage toutes les espèces créées. Bon, les choses sont très claires. On procède sur l'idée d'anthropocentrisme. L'homme est au cœur d'une nature qu'il a vocation à dominer, à maîtriser entièrement. Et c'est bien ça l'objet de l'acclimatation. Il s'agit de prendre des espèces, notamment animales, mais également végétales, ailleurs dans le monde, de les ramener en France et à partir de là, de créer quelque chose, de les habituer à vivre chez nous et de créer des productions. Ainsi, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire le décrit très bien en 1854, c'est son discours inaugural. Je cite « Il ne s'agit de rien moins que de peupler nos champs, nos forêts, nos rivières, d'hôtes nouveaux, d'augmenter le nombre de nos animaux domestiques, cette richesse première du cultivateur, d'accroître et de varier les ressources alimentaires si insuffisantes, dont nous disposons aujourd'hui, de créer d'autres produits économiques ou industriels. » D'accord ? Nous avons ici, clairement, l'idée qui est exprimée, on prend les animaux ailleurs, on les introduit en France, on les fait se reproduire, on les domestique, et ainsi on va développer la richesse agricole, voire également l'industrie. Bon. Ces animaux sont très variés. On va, parce que d'abord, il s'agit d'une société zoologique, avant tout, hein, donc je vais parler surtout des animaux. On va d'abord essayer d'introduire des animaux pour la consommation. C'est l'exemple du nandou que vous avez à droite de l'image. On va consommer des omelettes de nandou, on va consommer des nandous eux-mêmes. On va également chercher à introduire des gibiers. Ainsi, en 1856, des naturalistes font le constat que les perdrix grises disparaissent du nord de la France. Et donc, plutôt que de demander l'arrêt des destructions, et notamment de la chasse, ils vont proposer d'introduire un nouveau gibier, le colin de Virginie, ici, qui est immortalisé par Jean-Jacques Audubon, de façon... l'important pour eux, clairement, c'est pas qu'il y ait une espèce disparaisse, c'est que le profit qu'en tire l'homme, lui, ne diminue pas. Donc la perdrix grise disparaît, bon, c'est regrettable, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est introduire un nouveau gibier pour que l'homme puisse continuer à chasser. D'accord, c'est ça l'idée. On va essayer d'introduire également des espèces pour l'agrément et enfin des auxiliaires de l'agriculture. Je reviendrai sur ce point. Il est important. Nous avons donc ici un projet scientifique, mais aussi économique et politique qui se dessine, qui va obtenir le soutien des autorités dès le départ. Un soutien très puissant, y compris de l'empereur Napoléon III, directement, personnellement. Et ce soutien se voit de différentes façons. Je passe rapidement, hein, pour ne pas prendre trop de temps. Donc on a des subventions qui sont données par les ministères, etc. etc. La reconnaissance d'utilité publique est extrêmement rapide par rapport aux autres sociétés savantes de l'époque. Donc, ce soutien se voit également par la création du jardin d'acclimatation qui est fondé en 1860, qui va être le jardin d'essai de la société d'acclimatation, mais qui va rapidement se tourner vers le spectacle. Hein. Je vous ai mis ici une carte postale du début du XXe siècle où on voit un zèbre tirer un attelage, hein, une promenade à dos d'éléphant également exister. C'était effectivement des événements qui étaient très appréciés du public. En termes d'acclimatation, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, sur cette première phase, première période, on va dire, on a un projet scientifique, politique et économique qui vient à l'appui d'une science appliquée, qui va expérimenter sur le terrain et qui cherche clairement à enrichir les possessions de l'homme. Mais dès ce moment-là, on a deux cheminements qui apparaissent et qui nous dirigent vers la protection de la nature. Le premier de ces cheminements, ça concerne la question des ressources naturelles, qui ne naît pas au XIXe siècle, hein, qui existe au moins depuis le XVIIIe siècle. Bon, on cherche à faire en sorte que l'homme dispose de la nature, de tout ce dont il a besoin. Ici, je vais m'intéresser au cas du dépeuplement des cours d'eau français. En effet, à l'époque, tous les contemporains estiment que les cours d'eau français se dépeuplent, il y a de moins en moins de poissons, et donc ça pose des problèmes au niveau alimentaire, notamment. Le constat des causes de cette disparition est très bien identifié dès le milieu du XIXe siècle. La Société d'acclimatation produit un rapport en 1856, hein, très clair. Ils identifient très bien les causes directes. Il y a trop de pêche ou des méthodes sont trop destructrices. Les pollutions aussi, notamment industrielles, vont détruire le poisson. C'est clair, c'est direct. On le voit, les poissons meurent, ils flottent à la surface de l'eau. Bon. Mais on va aussi identifier des causes indirectes qui vont concerner les habitats. Soit parce que les cours d'eau sont curés ou dragués, ça détruit les frayères, soit parce qu'on établit des barrages, différents seuils, et l'industrialisation ne cesse d'établir des barrages pour utiliser la force hydraulique, et donc ces barrages viennent, comment dirais-je, perturber la remontée des poissons migrateurs, et notamment de poissons de valeur, que sont le saumon ou la lauze. Et donc la société d'acclimatation va s'en préoccuper et va proposer des solutions qui vont être très bien entendues par les pouvoirs publics. On a vraiment un lien ici étroit entre les savants et les pouvoirs publics. On le voit ce lien d'abord au niveau de la réglementation. Classiquement, les savants vont demander à l'État de prendre de nouvelles lois et de les faire appliquer. Bon. Sauf que dans les nouvelles lois, les savants vont s'investir dans la rédaction de ces lois, et y compris pour la réglementation de la pêche au saumon. Et en 1886, le ministère des Travaux publics va définir une commission pour s'occuper de ces questions-là. Cette commission est composée de 9 membres. 6 sont issus directement de l'administration, ingénieurs des eaux et forêts, des ponts et chaussées. Et 3 vont être des savants. Ces 3 savants sont tous issus de la société d'acclimatation. Ils font partie de cette commission, ils y interviennent, ils définissent le projet de décret qui va ensuite être promulgué en 1889. Donc on a des savants qui sont au cœur de l'administration centrale, qui sont reconnus en tant qu'experts et qui vont influer sur les décisions de l'administration. Premier élément. D'autres solutions sont préconisées, les réserves de pêche, je ne m'y attarde pas. La question du repeuplement aussi. On considère que les cours d'eau se dépeuplent, donc il faut les repeupler. On va donc lâcher des millions de saumons, de truites ou d'alevins, de façon à essayer de faire revenir ces poissons. Ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit qu'à finalement l'artificialisation du sauvage. Quatrième solution préconisée par les savants, c'est que on a les cours d'eau donc, qui sont fragmentés par ces barrages, donc ils vont essayer de reconstruire une sorte de continuité, qu'on n'appelle pas encore à l'époque écologique, en aménageant ces seuils. L'idée est clairement de concilier à la fois le progrès industriel, que ces savants appellent de leur vœu, avec la ressource de poissons. Et donc on préconise, comme ici, ce qu'on appelle des échelles à poissons, qu'on appelle maintenant des passes à poissons. Il s'agit de permettre, par un flux un peu annexe, aux poissons de remonter. Vous le voyez sur ce dessin, cette gravure de 1886, issue d'un rapport de la société d'acclimatation, où on voit les poissons qui remontent bien sagement à la queue leu-leu le cours d'eau, et qui vont pouvoir franchir ainsi le seuil. Bon. Donc, en 1886, un rapport est fait par la société de l'acclimatation. Ce rapport va être commandé par les ministères, va être utilisé au niveau de l'administration centrale et va être diffusé auprès de l'administration locale. Et on va voir ici un lien extrêmement étroit qui va pouvoir se nouer entre l'administration et les savants. On a des ingénieurs locaux qui écrivent à la société d'acclimatation, leur demandant des conseils, des avis par rapport à leur projet d'échelle à poissons. Donc, on a vraiment une perméabilité entre les deux sur ce sujet-là. Bon. Le problème est qu'à la fin du 19e siècle, malgré tout cela, le constat est toujours fait que les poissons, les cours d'eau français se dépeuplent. D'accord ? Donc, grande perméabilité entre le monde naturaliste et l'administration, mais le résultat, c'est qu'on n'arrive pas à sauver cette nature, à la protéger. Le deuxième cheminement qui existe dès cette époque vers la protection de la nature, c'est la question des espèces utiles. Et ici, particulièrement des animaux. Il s'agit de conserver l'utile. Là encore, une citation de Léon Turel, 1861, s'avère précieuse. Le but que se propose la société d'acclimatation tend à se définir en ces termes. Augmentation par la domestication d'espèces nouvelles, de nos ressources de travail, d'alimentation ou de luxe. Mais ce but doit être complété par une protection efficace à donner aux animaux auxiliaires, se nourrissant aux dépens des ennemis de nos réserves alimentaires, animales ou végétales. Alors, qui sont les ennemis ? Ce sont d'abord les rongeurs, évidemment, mais c'est surtout l'insecte. On est dans une époque d'insectophobie assez généralisée, et on va chercher à protéger tous les animaux qui vont manger des insectes, sans savoir d'ailleurs si l'insecte est utile ou nuisible lui-même. Mais bon, du moment qu'on mange des insectes, c'est l'important. Ainsi, la LPO va diffuser une affiche en 1921, adressée directement aux agriculteurs, intitulée « Nos amis, les oiseaux ». Cette affiche met en scène un certain nombre de vignettes où on voit des oiseaux avec un comportement de prédation et une adresse qui est directement faite aux agriculteurs. Rappelez-vous sans cesse que la mort d'un oiseau sauve des milliers d'insectes qui anéantissent vos récoltes. La protection des oiseaux est une question de vie ou de mort pour l'agriculture française. Donc le propos est très clair. Cette idée persiste encore très largement jusqu'à nos jours. Bon voilà, donc on arrive à la fin du 19e siècle. On a cette notion de protection qui clairement existe dans le milieu naturaliste, qui existe notamment en lien avec l'agriculture, mais elle est subordonnée à l'idéologie utilitariste. On ne protège finalement qu'une partie de la nature. Or, autour de 1900, c'est ce regard savant qui va se transformer. D'accord ? Parce qu'il ne s'agit plus de protéger simplement une partie de la nature, la partie utile, mais pour les savants, il va s'agir de protéger, de sauver toute la nature. D'accord ? Là, une citation s'avère déterminante, c'est celle d'Edmond Perrier, qui est, à partir de 1900, le président de la société d'acclimatation et qui est aussi également le directeur du Muséum d'histoire naturelle. Donc on est toujours, vous voyez, dans le même milieu naturaliste. Donc Edmond Perrier nous dit, je cite, « Quand l'homme aura mis en coupe réglée le peu qui reste de nos forêts vierges, ensemencé de plantes utiles tous les terrains, quand il aura domestiqué tous les animaux qui lui plaisent et détruit les autres, quelle sera la monotonie de son existence sur cette modeste planète transformée en un vaste potager semé d'étables ? » Sauf qu'en 1854, le vaste potager semé d'étables, c'était le désir d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le désir des fondateurs de la société d'acclimatation. C'est ce que souhaitait d'ailleurs Napoléon III. C'est pour ça qu'il soutenait cette société savante. D'accord ? Donc en 60 ans, on a un changement radical de regard. On voit que justement les propositions s'inversent et que les préoccupations également. Pourquoi ces modifications? Bah, d'abord, on a une crise importante qui apparaît au sein de la société d'acclimatation, une crise d'abord idéologique. L'acclimatation est contestée, je le développerai dans un instant. Cette contestation de l'acclimatation va déboucher sur une crise de recrutement, il n'y a plus d'adhérents à la société d'acclimatation, et donc une crise financière, il n'y a plus d'argent qui rentre, qui va être renforcée par des problèmes de gouvernance. Il y a des personnes qui vont être à la direction, qui ne vont pas du tout bien gérer l'association, et donc on va avoir une crise associative absolument majeure, à tel point qu'en 1900, on discute de la dissolution de la société d'acclimatation. Donc elle est au fond du gouffre. À ce moment-là, elle va reprendre pied, grâce à Edmond Perrier et à l'équipe qui vont l'accompagner, et qui vont renouveler considérablement cette société d'acclimatation. Ils vont d'abord la réorienter vers les colonies. Ils vont appliquer l'idée d'acclimatation plutôt aux colonies. D'accord ? Donc il ne s'agit plus d'enrichir la métropole, mais on va essayer de décrire et d'enrichir les colonies. Bon, et là, ils ont le soutien du muséum, et ils ont le soutien également des pouvoirs publics. Ils le retrouvent, en fait. Bon. Le second problème qui s'est posé, c'est que l'acclimatation va être véritablement contestée. Je vous ai mis ici une caricature d'Honoré Daumier de 1856 qui montre deux savants qui se penchent sur un baquet où sont des poissons, et le commentaire est édifiant. Prenez garde, ne les agacez pas trop. Ce sont de petits requins âgés de 6 semaines, mais déjà très méchants. Le moment est venu d'essayer l'acclimatation des requins dans les eaux de la Seine. Bon, ils se moquent, mais c'est bien le problème fondamental de la société d'acclimatation. L'acclimatation est une réussite technique et scientifique. On arrive à acclimater des tas d'espèces. Le yak, la chèvre angora vivent très bien en France. Sauf que ça ne donne rien, ni pour l'agriculture, ni pour l'industrie. D'accord ? Donc ce n'est pas la faisabilité qui est mise en cause, mais c'est l'utilité. À quoi sert d'acclimater ? D'autant qu'à la même époque, des critiques vigoureuses vont être portées contre l'introduction d'espèces. Tout le monde a en tête à l'époque, et ils en discutent, le problème posé par les lapins en Australie. On accuse même la société d'acclimatation d'avoir introduit par inadvertance le phylloxéra en France. D'accord ? Donc c'est l'introduction d'espèces qui commence à être mise en cause. Et donc, la société d'acclimatation ne fait plus d'acclimatation. Voilà, c'est clairement ça, le problème. Bon. Donc, à part les colonies, elle va se réorienter vers la protection de la nature. En fait, elle va approfondir les éléments qu'on a vus précédemment qui existaient au XIXe siècle. La question de l'utilité, de la nuisibilité des espèces va déboucher sur une réflexion extrêmement importante, puisque c'est les savants qu'on va sommer de décider, de savoir qui est utile et qui est nuisible. Donc ils vont mener des études, et notamment sur le régime alimentaire. Il s'agit de savoir ce que mangent, est-ce que les oiseaux mangent des graines ou est-ce qu'ils mangent des insectes? Est-ce qu'ils sont nuisibles pour l'agriculteur ou est-ce qu'ils sont utiles? Et les savants, rapidement, arrivent au constat qu'il est impossible pour eux de définir la nuisibilité d'une espèce en tout lieu et en tout temps. Voilà. Et donc, ils remettent en cause cette séparation entre utile et nuisible. Ils vont même aller plus loin et définir la notion d'équilibre naturel qui postule que toutes les espèces sont utiles dans la nature, mais une nature dont l'homme n'est plus le centre. D'accord ? Donc, on fait basculer cette notion d'utilitarisme. On en vient à contester même l'idée d'acclimatation, et l'homme surtout est identifié comme étant le grand perturbateur de ces équilibres. Voilà. L'homme est mis en accusation. Donc cela va produire un certain nombre de changements de perspectives qui vont être renforcés par la prise de conscience à l'époque du problème posé par les extinctions d'espèces. Alors ça fait bien longtemps qu'on sait que des espèces se sont éteintes. On les renvoie généralement au temps ancien, les mammouths, etc. Bon. Sauf que, à la fin du XIXe siècle, les savants prennent conscience que les extinctions sont contemporaines, sont de leur temps. Et même, ils prennent conscience qu'ils sont eux-mêmes responsables de cette disparition d'espèces. Et c'est le cas pour le grand pingouin que vous avez ici, qui va s'éteindre en juin 44, juin 1844, le 3 juin précisément, par l'action des collectionneurs. D'accord ? Les derniers individus de grands pingouins ont été tués pour enrichir la collection de savants naturalistes. D'accord ? Ça, les savants de la société d'acclimatation s'en rendent conscience. Donc, ils s'estiment eux-mêmes responsables de ces extinctions. Autre exemple, en plus du bison, c'est celui du pigeon migrateur. Ici, le pigeon migrateur américain, qui parcourait l'Amérique du Nord en vol de plusieurs millions d'individus, Jean-Jacques Audubon parle même de milliards, et qui, dont le dernier représentant, une femelle, Martha, va s'éteindre dans un zoo en 1914, le 11 septembre 1914. D'accord ? Les savants sont effrayés du pouvoir destructeur de l'homme. Ils se disent que la richesse naturelle est en train de s'effondrer à cause de l'homme. Et donc, ils vont être sensibilisés à cette cause-là et ils vont commencer à essayer de prendre des mesures pour éviter qu'une espèce ne disparaisse totalement. Et c'est ce qui va se passer pour le castor d'Europe. Le castor d'Europe, en 1900, est au bord de l'extinction. Vous avez ici une carte qui présente son aire de répartition autour de 1900. Il existe donc plus que quelques centaines de castors dans toute l'Europe, par des foyers qui sont bien distincts. En France, il n'en reste plus qu'en Camargue, quelques dizaines d'individus à peine en Camargue et dans le Baron. Bon. Pourquoi le castor est-il si rare? Eh bien, il a été pourchassé depuis des siècles, parce que c'est un animal qui est utile, il est utilisé. Il est utilisé pour sa fourrure, il est utilisé pour l'alimentation, on le consomme, on en fait même des pâtés, les moines de Villeneuve, les Avignons font des pâtés qu'ils consomment en tant que carême, puisque comme il a une queue écailleuse, c'est un poisson, d'accord, c'est pratique, vous voyez. Il est également utilisé, on utilise une de ses substances, le castoreum, en parfumerie, et dans une pharmacopée un peu traditionnelle. Bon. Sauf que le castor étant devenant de plus en plus rare en Europe, il va son caractère nuisible va finalement dominer, et au XIXe siècle, il est considéré comme un animal nuisible. Nuisible pourquoi? Il fait des barrages et il inonde les fonds de vallée. Il va consommer des arbres, en abattre, pour manger leur écorce, notamment l'hiver. Et puis il va, creuser des terriers, et donc on va l'accuser de percer les digues. Et on donne des primes pour détruire ce castor qui perce les digues. Bon. Donc le castor est au bord de l'extinction. Mais c'est à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant pour l'historien, de voir que certains savants vont demander la protection de cet animal nuisible. On demande la protection d'un nuisible. C'est ça qui est nouveau. En 1889, on a quelques savants locaux du Gard, notamment Galien Mingot, qui est le directeur du Muséum des sciences naturelles de Nîmes, qui va interpeller les grandes sociétés savantes nationales, notamment la Société d'acclimatation, pour leur demander d'agir pour obtenir l'arrêt de la destruction du castor. Donc le sujet est débattu en 1895 au sein de la Société d'acclimatation et l'avis est quasi unanime. Il est hors de question pour la Société d'acclimatation de s'investir pour protéger un animal nuisible. Certes, sa disparition est regrettable, c'est dit en ces mots, mais finalement, elle est naturelle. Le castor gêne l'homme, l'homme a vocation à dominer la planète, c'est normal qu'il disparaisse. D'accord ? 1895. Sauf que, 15 ans plus tard, en 1909, on a des arrêtés de protection qui sont pris dans le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse. En 1922, le préfet de Drôme, Charles Vatrin, va prendre un arrêté pour protéger le castor sur la Drôme. Et il reçoit, cette année-là, la grande médaille d'argent de la Société d'acclimatation pour le remercier de son œuvre de protection en faveur du castor du Rhône. En 15 ans, les mêmes savants naturalistes, la même société savante, a changé radicalement de point de vue. Pourquoi ? Eh bien, Galien Mingot nous le dit très simplement à travers une citation, 1909. Par leur vote unanime, les conseils généraux ont répondu au désir de tous ceux qui voyaient avec peine disparaître de notre grand fleuve méridional et de notre faune un mammifère aussi intéressant qu'utile. Disparaître. La question de l'extinction ici les sensibilise profondément. Mais disparaître quoi ? Un animal qu'on trouve intéressant d'un point de vue scientifique et utile. Utile dans la notion d'équilibre naturel, pas forcément utile pour l'homme. D'accord ? Donc on a bien la notion d'équilibre naturel qui est mobilisée. Mais surtout, on va pour la première fois faire d'une espèce sauvage un patrimoine. Clairement, de nuisible, le castor est devenu un patrimoine. Un patrimoine qu'on doit léguer à nos descendants, tel quel, parce qu'il existe, pas parce qu'il nous est utile. Et donc on a un changement de regard ici qui est très important. Donc au début du XXe siècle, clairement, on a ces idées de protection de la nature qui sont largement diffusées au sein des naturalistes, tous ne sont pas unanimes, hein, soyons clairs, mais ça se diffuse très largement. On a cette question qui émerge maintenant de façon importante, mais finalement le grand débat va être celui des actions à réaliser. Comment agir pour protéger efficacement ? On a vu avec le dépeuplement des cours d'eau que les actions classiques ne fonctionnent pas. On s'adresse à l'État, l'État agit, et ça ne produit rien d'efficace. D'accord ? Donc on va se poser cette question-là à partir des années 1910, et la date de 1912 va être une date symbolique charnière. C'est à ce moment-là qu'on va voir naître la Ligue pour la protection des oiseaux, d'accord ? Qui va clairement permettre de trancher au sein de la société d'acclimatation un débat interne. En effet, on a deux points de vue qui s'opposent. Celui classique des savants, qui considère que la société d'acclimatation est une société savante, elle doit mener des études scientifiques, s'adresser à l'État pour l'action. Point. Et puis on voit apparaître d'autres personnages, des naturalistes, des savants, à l'égal des premiers, mais qui eux considèrent qu'ils ont également un devoir d'engagement d'engagement éthique, moral, sur des valeurs de protection, et qui doivent fonder cet engagement sur leurs apports scientifiques. D'accord ? Voire qu'ils doivent s'opposer à l'État quand c'est nécessaire. Vous voyez qu'on a deux logiques différentes. Créer ainsi une sous-section au sein de la société d'acclimatation permet d'éviter la scission. D'accord ? Les protecteurs se mettent dans cette sous-section, dans cette association, d'ailleurs qui reconnaît un succès très rapide, d'accord ? Et les plus traditionnels restent dans les autres sections, qui ont des définitions qui sont plus d'ordre biologique. D'accord ? Deuxième intérêt de cette date de 1912, eh bien, on voit la création de la première réserve ornithologique de France. On peut mettre des guillemets à réserve, je l'expliquerai tout à l'heure. En effet, on cherche à protéger, comme on l'a fait pour le castor, ce petit oiseau, le macaron-moine, ici, dont les sept îles sont le seul endroit en France où ils nichent, en colonie. Sauf que, dans les années 1900, on a, nous dit-on, des Parisiens qui viennent par le train et qui vont prendre le bateau, arriver sur l'île Rouzic, tirer des centaines de cartouches, faire des cartons sur les macareux, et puis repartir en laissant les cadavres. D'accord ? Et donc cette colonie, année après année, voit ses effectifs se réduire considérablement, à tel point qu'on craint que ces macareux ne disparaissent de France. Et donc là, les savants vont se mobiliser et obtenir, comme pour le castor, un arrêté préfectoral. Vous en avez ici le panneau qui est mis sur l'île Rouzic, hein, pour avertir les personnes. Comme quoi il est interdit, la chasse est interdite sur cette île. Et ainsi, la caoline macaron-moine peut persister et existe encore jusqu'à nos jours. Bon, elle se rétablit malgré les marées noires, mais c'est encore une autre histoire. Donc nous sommes là, vous voyez, à un tournant. Les savants se mettent à agir directement eux-mêmes. D'accord ? Et ça va être un premier axe de la définition d'un courant naturaliste de protection, en plus du fait que le motif soit scientifique pour cette protection. Il s'agit effectivement ici de s'intéresser, on essaye de sauver les espèces menacées d'extinction, on essaye de protéger les sites naturels exceptionnels. L'idée est très simple, il suffit de retirer l'homme de la nature pour que la nature retrouve son équilibre, pour qu'elle retrouve son idéal, idéal qui peut être dynamique d'ailleurs. Voilà. Mais l'idée est là, donc on n'a plus une société d'acclimatation qui agit pour l'homme, mais il considère que l'homme est le problème au sein de cette nature un peu idéalisée tout de même. Bon. Et donc, on va définir le modèle de protection intégrale et notamment les réserves intégrales.
Donc, ces réserves intégrales vont donner lieu à la création des premières réserves naturelles en France métropolitaine. Elles sont d'abord le fait de la Société de l'acclimatation, qui va ainsi fonder en 1927 la réserve de Camargue, par une sorte d'opportunité. En fait, ce sont les salins qui n'avaient plus besoin des terrains autour de l'étang de Vacarès, qui vont en confier la gestion à la société d'acclimatation. Mais de façon plus nette, la société d'acclimatation va avoir la volonté de créer deux réserves en montagne. En 1935, elle fonde la réserve du Néouviel, dans les Hautes-Pyrénées, et en 1936, elle crée une réserve naturelle au Lausannier, dans les Alpes de Haute-Provence. La LPO, sur cette même période de l'entre-deux-guerres, va également poursuivre son action pour créer des réserves naturelles sur le modèle des sept îles, c'est-à-dire qu'elle va obtenir des arrêtés préfectoraux pour protéger en 1920 la forêt de Mormal, et en 1931 et 1935 des zones côtières, les falaises à Ménilonco, et puis le Cap Fréhel en Bretagne. Voilà. Donc là, on a ces mêmes logiques de protection qui existent. En 1930, la LPO va obtenir la gestion directe de la réserve des sept îles, qui va devenir cette fois-ci une vraie réserve naturelle, avec une gestion par une association de protection. Elle va payer un salarié, un garde, pour assurer la gestion, la surveillance de cette réserve. Mais déjà, à côté de ce courant qui souhaite une protection intégrale de la nature, on voit déjà apparaître dans l'entre-deux-guerres une autre dimension. En effet, en 1920, la LPO propose la création de refuges à ses différents adhérents. Quel est le principe du refuge ? C'est de faire une mini-réserve, mais chez soi. Chaque membre peut ainsi mettre en protection soit son jardin, soit ses propriétés, en apposant un certain nombre de panneaux, refuges pour les oiseaux. Donc on a là déjà une évolution, puisqu'il ne s'agit plus de protéger une nature exceptionnelle ou des sites naturels exceptionnels, mais bien une nature ordinaire, banale, commune, une nature à proximité de l'homme, et je dirais même que l'homme, ici, on considère que par son action, il peut être bénéfique pour cette nature. D'accord ? Et on demande, enfin, et c'est le troisième élément important de cette idée de refuge LPO, c'est qu'on demande à chaque adhérent de s'investir directement, concrètement, lui-même, pour la protection. Et c'est finalement un second axe d'affirmation de la protection de la nature dans l'entre-deux-guerres. Ainsi, la LPO va également demander à ses membres d'installer soit des nichoirs, soit des mangeoires pour venir en aide aux petits oiseaux. Cette mutation vers un militantisme, hein, on va dire, en faveur de la protection de la nature, on l'aperçoit bien, cette mutation, dans plusieurs combats qui ont eu lieu dans l'entre-deux-guerres. Le combat contre notamment le commerce des plumes d'oiseaux, hein, pour la mode des chapeaux, qui commence déjà dans les années 1900. Mais c'est surtout celui sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est le combat contre l'aveuglement des pinsons. C'est une pratique qui avait cours au nord de la France et en Belgique, qui consistait à aveugler, à capturer puis à aveugler des passereaux pour, soi-disant, développer leur qualité de chant pour des concours. Pour les militants, notamment de la LPO, mais aussi de la société d'acclimatation, qui vont s'élever contre ces pratiques, c'est d'abord une question très classique, utilitariste. On détruit par cette pratique des oiseaux insectivores qui sont utiles à l'agriculture. En plus, c'est une question légaliste, puisque ce sont des pratiques qui sont interdites, il s'agit d'oiseaux protégés. Mais donc, ces éléments-là sont dans le droit fil du 19e siècle, rien de bien nouveau. Cependant, on voit rapidement apparaître d'autres motivations. En effet, des considérations morales et sociales s'ajoutent à ces considérations scientifiques. Et les militants dénoncent des pratiques qui sont barbares, qui sont cruelles. Ils dénoncent aussi les gens qui font ces pratiques-là, qui sont réputés être des classes sociales populaires, qui en plus sont sans doute alcoolisées. En tout cas, c'est le propos qui est tenu par les militants. Et on voit ici ce courant de protection de la nature rejoindre le courant personnifié par la SPA, créé en 1845. On n'est plus sûr de la protection animale. La solution elle-même proposée à ce problème de l'aveuglement des pinsons est assez nouveau. Au départ, on fait appel au pouvoir public, au préfet, pour lui demander de faire respecter la loi. Fin de non-recevoir du préfet. Et donc les militants vont agir directement, notamment en sollicitant, en interpellant le ministre de l'Agriculture, Henri Chéron, qui est en visite dans les haras de Compiègne, hein, en 1922. Et ils vont obtenir un décret du ministre qui rappelle cette interdiction de détruire ces oiseaux insectivores. Et il faut encore l'action locale des militants pour obtenir du préfet du Nord l'application de ce décret. C'est chose faite en 1925. Donc on arrive à l'issue de ce parcours, hein, qui allait du milieu 19e au milieu du 20e siècle. On a pu s'apercevoir que la nature objet du 19e siècle est devenue une nature patrimoine de l'humanité à conserver pour les générations à venir. Dans ce cheminement, les relations entre les naturalistes et les pouvoirs publics et l'agriculture sont essentielles. Elles sont le nœud de cet éveil. Et clairement, on peut considérer que dès le milieu du 19e siècle, la société d'acclimatation apparaît comme un acteur majeur de la définition d'un courant naturaliste de protection, à la fois en France et dans le monde, un courant qui se distingue des autres par sa vision plus savante, biocentrée et patrimoniale, mais aussi éthique de cette question de protection. Ici, on va retrouver donc une large partie des racines du mouvement actuel de protection de la nature. Et d'ailleurs, cela, on va le voir, parce que je vais revenir sur le cas du castor d'Europe, et je vais tirer ce cas, jusqu'à nos jours. Nous avions laissé le castor en 1909, au tout début du XXe siècle, au moment où il était au bord de l'extinction, et qu'un certain nombre de préfets ont pris des arrêtés interdisant sa disparition. Le simple arrêt de la pression anthropique va permettre aux castors de retrouver des effectifs, peut-être pas considérables au départ, mais en tout cas de commencer à regagner en effectifs et aussi en répartition. En 1930, l'aire de répartition du castor d'Europe atteint Montélimar. En 1960, il est au sud de Lyon. Donc naturellement, le castor a connu une expansion. Mais parallèlement, il y a une autre action qui est menée par les naturalistes et les protecteurs, ce sont des réintroductions, d'accord, qui vont se produire dans toute l'Europe. En France, c'est à partir de 1957 que les réintroductions vont exister. Ça permet aux castors de franchir des ouvrages humains, notamment des barrages, qu'il est assez incapable de franchir par lui-même. Ça lui permet aussi de recoloniser d'autres organismes fluviaux. Et la plus belle réussite, c'est sur la Loire, où 13 castors relâchés en 1973-74 à Blois sur la Loire vont recoloniser l'ensemble, la quasi-intégralité du cours de cette rivière et maintenant remonte des affluents. La protection du castor est une grande réussite. On a à peu près 15 000 castors de nos jours en France, chiffre de l'ONCFS, contre quelques dizaines simplement en 1900. D'accord ? Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce retour du castor dans au cours de ce XXe siècle et jusqu'à nos jours est-il une réussite ? Eh bien, il est une réussite d'abord parce que le castor bénéficie d'une très large acceptation sociale. Ses conséquences négatives, qui sont réelles, hein, le castor fait des dégâts, sont relativement tolérées ou acceptées. Au contraire, la présence du castor est grandement valorisée parce que c'est un gage de naturalité. Il permet une augmentation de la biodiversité localement et puis il est très valorisé socialement. On peut citer simplement le père castor et les histoires du père castor pour voir de quelle image positive le castor peut bénéficier dans l'opinion. En plus, favorisant cette large acceptation sociale, on a un suivi de terrain qui est réalisé par les associations naturalistes, mais également par l'État, qui met en place en 1987 un réseau castor, qui est piloté actuellement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui fonctionne très bien. Mais il ne s'agit pas simplement de regarder les sociétés pour comprendre le retour du castor. Il faut également considérer que le castor est un animal qui dispose d'une très grande adaptabilité, parce qu'effectivement, le retour du castor a permis de découvrir un certain nombre de choses. Et d'abord, des surprises en termes de comportement. Je vous avais décrit un castor qui, à la fin du XIXe siècle, ne construisait plus de huttes, mais habitait dans des terriers, ne construisait plus de barrages, était plutôt nocturne. Et en fait, l'arrêt de la pression anthropique sur cet animal va le conduire à adapter à nouveau ses comportements. Il va se remettre à bâtir des huttes. La première observée sur le Rhône est datée de 1961, et maintenant on en connaît d'autres. Il va de nouveau construire des barrages, il va avoir des comportements davantage diurnes, et il va s'avérer s'adapter, il va s'adapter très facilement au milieu fortement anthropisé. Je vous ai mis ici une photo où on voit un chantier de castor au cœur de Lyon, on est au cœur de l'agglomération, hein, on est face à la cité internationale, derrière il y a une autoroute qui passe, et ben, le castor ici a son terrier, un petit peu en amont, quelques mètres en amont. Donc on a vraiment castor qui s'adapte bien. Deuxième surprise, ce sont des surprises écologiques. En effet, le retour du castor va transformer considérablement les cours d'eau, et notamment les ripisylves, en ouvrant les espaces, et donc en favorisant une mosaïque de milieux qui favorise une plus grande biodiversité, et finalement des cours d'eau qui retrouvent peut-être un visage plus naturel, si l'on peut dire, avec prudence évidemment. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, parce que ce retour du castor permet d'identifier aussi des adaptations individuelles. Et là, je vais vous décrire le cas d'un castor, le castor constructeur de Blois, entre 2011 et 2016, parce que c'est un cas très, très spécifique. En effet, à Blois, les castors ont été réintroduits à partir de 1973, et des individus se sont établis à partir de 1987 et de façon continue dans une sorte de parc urbain récréatif en amont de Blois qu'on appelle le parc des Mets. Bon, parc urbain traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'on a de l'herbe qui est tondue, des tables de pique-nique, un centre équestre, des jeux pour enfants, des terrains de sport. On voit circuler donc les personnes. L'été, il y a des classes qui viennent y pique-niquer, donc on est sur un espace qui est très largement anthropisé, hein, clairement, un parc récréatif. On a également une base de canoë et kayak. Bon. Et donc, on a, entre 1987 et 2010, trois individus successifs qui vont s'y installer et se faire très discrets. Personne ne va savoir qu'ils sont là, à part quelques naturalistes chevronnés. Ils vont habiter ces castors dans des terriers et faire très peu de... Très peu et consommer très peu d'arbres. Bon. Sauf qu'en 2010, le dernier castor va disparaître et il va être remplacé par un autre castor, celui que je vous ai mis ici en photo, d'accord, un jeune adulte, qui va s'installer à partir de 2011 et qui est encore présent de nos jours. C'est la photo, c'est sa photo que je vous ai mis ici à l'écran. Et donc ce castor va avoir adopté un comportement radicalement différent de ses trois prédécesseurs. Il va construire pas moins de 8 barrages. Je vous les ai mis effectivement ici en photo, hein, quelques exemples. Il va également bâtir une hutte colossale, 2,50 m de haut, 3 m de large, 5 m de long. Et il va inonder des portions entières du parc récréatif et également des champs. Bon, ici, ce qui devient intéressant, c'est de voir les réactions des uns et des autres. En effet, les élus vont voir d'un très bon œil ce castor s'installer, ainsi que la population locale. Les classes vont venir voir le castor, les promeneurs le connaissent, il y a des articles qui sont faits dans le journal local, donc on a une acceptation de sa présence de ce castor qui est très importante, qui est valorisée. Il y a néanmoins un hic, c'est que l'agriculteur, lui, possède ses champs, va avoir effectivement ce castor d'un mauvais œil, et en janvier 2014, il va venir avec un tractopelle et détruire pas moins de 7 des 8 barrages. Il n'arrive pas à détruire le 8e parce qu'il va s'enliser, en fait. Hein. Mais le castor va reconstruire rapidement ses différents ouvrages. Ça nous permet de voir qu'effectivement, il y a une évolution du castor dans les représentations à partir du 19e siècle. Il n'est plus simplement nuisible, même si cette idée d'animal nuisible peut persister dans certaines couches de la population qui sont, soyons honnêtes, hein, directement affectées par les actions de cet animal. Et donc ça nous permet d'arriver, et je conclurai là-dessus, sur deux questions. D'abord, nos sociétés sont-elles adaptées au retour du sauvage? Et en fait, le problème, c'est que le castor est très largement méconnu, et voire ignoré. Je vous ai mis ici une photo d'une répisylve, un petit bois au bord de cours d'eau, dans la Drôme, où le propriétaire, voyant des arbres à terre, a cru bon d'apposer un panneau où il indique « défense de couper les arbres », en imaginant que ça allait solutionner son problème. Je vous laisse seul juge, évidemment, de la réussite de ce panneautage, mais en tout cas, ça signifie que ce propriétaire n'imaginait pas d'abord qu'il puisse y avoir des castors chez lui, d'accord ? Il ne pouvait pas y avoir des castors en France, hein, tout simplement, et il ne savait pas comment le castor pouvait agir, et donc il n'arrivait pas à se protéger non plus. Autre exemple, autre question, finalement, est-ce que le sauvage ne doit pas être régulé dans nos sociétés pour finalement être accepté? Est-ce qu'il ne doit pas être mis sous tutelle de l'homme? Et ici, je prends un dernier exemple très récent, qui concerne les Ardennes, et notamment Charleville-Mézières, où les castors sont revenus à partir de 2012, en remontant finalement de Belgique. Ils ont d'abord rongé quelques arbres au centre-ville. La mairie a fait installer des grillages et les problèmes ont vite été résolus. Et puis, trouvant le coin sans doute très agréable et sympathique, ils se sont installés, ces castors, au niveau de la zone de captage, finalement de l'eau potable de toute la région, une zone plutôt naturelle, où ils ont construit un ensemble de barrages. Et donc, d'après un ensemble de techniciens, ils menaceraient l'alimentation en eau potable de tout Charleville-Mézières. Et là, clairement, on voit ressurgir une vision assez binaire du monde, ainsi que l'exprime le vice-président de l'agglomération en charge de cette question d'eau. Je cite « Il faudrait savoir ce qui est le plus important, la vie de ces castors ou l'alimentation en eau de 40 000 personnes. » Les choses sont simples, elles sont binaires. On choisit soit l'homme, soit l'animal sauvage. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. D'accord ? Bon, c'est une expression peut-être un peu caricaturale, effectivement, de l'opinion générale, mais néanmoins, elle est persistante, voire elle est prégnante dans nos sociétés. Il faut, en moyenne, selon les cas, entre 5 à 10 ans après le retour du castor, pour que celui-ci soit accepté, pour qu'il soit accepté par une adaptation de la société, finalement, qui arrive à cohabiter assez aisément avec cet animal. Voilà, je vous remercie. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.